Europe 1.
Europe 1. 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage en duplex de mon canapé pour le 42e jour d'affilée, mu par une formidable abnégation et un indéfectible amour de leur métier un peu, et par le fait qu'ils n'ont pas réussi à négocier un chômage partiel beaucoup. Les meilleurs journalistes de la rédac sont eux-mêmes en duplex avec moi de chez eux. Même confinés, ils continuent chaque après-midi de livrer bataille au service de votre culture G. Un seul sera élu comme d'habitude chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus surprenant, le tout sous l'égide d'une femme qui est plus que ma complice. Elle est la chef d'orchestre de cette émission. De par son inépuisable énergie, elle imprime un rythme endiablé à l'équipe sauvage. Rythme endiablé, palpable avant même le démarrage de l'émission, quand Eva salue les journalistes hors antenne.
Salut les garçons.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
C'est la méga pêche du confinement, Eva.
Mais oui, c'est
la méga pêche. Vous savez galvaniser les troupes.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais autant moi j'ai la pêche, alors autant certains ils sont un peu tout mous.
Rabolis, voilà. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, exactement.
Galvaniser nos journalistes et votre mission, mais vous en avez une deuxième. Calmer nos enfants et nos ados, ou en tout cas les occuper, afin que nous on puisse télétravailler sereinement.
Oui, télétravailler ou vous reposer aussi parce que vous en pouvez plus les enfants, voilà. Je vais vous donner deux nouveaux conseils, des conseils aussi pour les grands et une surprise pour vous, Mathieu. Ça sera en deuxième partie d'émission. Je peux pas vous en dire plus.
Je sais qu'il y a une surprise. Il y a des trous dans mon conducteur aujourd'hui, je suis très inquiet. Ouais. On a hâte de savoir comment vous comptez canaliser l'énergie de nos enfants, mais Eva, vous le savez, c'est notre kiff du confinement. Chaque après-midi, on prend des nouvelles d'une star confinée grâce à des moyens techniques dernier cri. Une connexion FFDP 64 bits monophasée multipiste Dolby Atmos 7.1. La liaison est toujours optimale, comme on a encore pu le vérifier avec Jean-Paul Roux jeudi dernier.
Bonjour Jean-Paul.
Ça va?
Allô?
Oui, vous nous entendez?
Allô?
Allô, allô?
Oui, est-ce que vous nous entendez, Jean-Paul?
J'entends rien du tout. J'ai pas de retour.
Il n'entend pas.
Ah, je crois que c'est marqué connecté, mais...
Connecté, ouais, nous on vous entend très bien.
Je n'ai pas de retour. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On va vous appeler. Oui, ça sert à rien que je dise ça s'il ne nous entend pas.
Oui, on va vous appeler. Vrai. On dit de ces bêtises parfois, hein, Eva. Aujourd'hui, le miracle de la technique aura-t-il lieu? Allez, je me lance. Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
Alléluia, Arnaud. Vous nous entendez Arnaud?
Alors, non, là c'est Jean-Paul Roux à l'appareil. Les gars, mettez-vous au point sur les invités.
Alors, Arnaud Ducret, je prends la définition du Larousse. Comédien français en vogue, présent dans tous les bons coups du cinéma en 2020. Si le Covid n'était pas passé par là, on aurait dû vous découvrir fin mars dans Divorce Club, primé à l'Alpe d'Huez. Et on peut d'ores et déjà vous découvrir chez soi, en VOD, dans Mine de Rien, autre comédie, également primée au Festival de l'Alpe d'Huez. Vous êtes vraiment dans tous les bons coups en 2020. C'est votre année.
C'est mon année. C'est mon année, oui et non. Enfin, c'est l'année de tout le monde et de personne, en fait, parce que confinement, effectivement, on a tous des projets extraordinaires, mais aucun ne sort.
Bah, si, là, on peut voir Mine de Rien en VOD. Oui. Il était sorti en février, là, on peut déjà le voir en VOD, c'est bien.
Mais oui, c'est bien, parce qu'en plus, il a été en pleine projo et tout s'est arrêté puisque les cinémas sont fermés. Donc, oui, il continue sa petite vie cinématographique en VOD et avec le confinement, on va peut-être avoir plus de gens qui vont regarder d'ailleurs, c'est peut-être mieux, quoi.
Ouais, en plus, c'est vraiment la comédie sympa à voir en ce moment en période de confinement, comme vous dites.
Et touchante. Ouais. On va en parler de Mine de Rien. Vous allez aussi nous raconter peut-être un peu votre confinement, vu qu'on vous a vu faire du pole dance l'autre jour, ce qui n'est pas banal quand on fait quasiment 2 mètres. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier est un être d'un raffinement exceptionnel. Son arbre généalogique, mis à part quelques branches coupées à ras en 1789 et 1792, est magnifique. Axel de Tarlé, digne représentant de la vieille noblesse française, est notre expert écho. C'est un être d'une élégance absolue, absolument imperméable à toute forme de vulgarité, y compris en cette période de confinement où, avouons-le, beaucoup d'hommes se relâchent et se laissent aller à leurs instincts les plus primaires. Non, Axel, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne dira jamais « se masturber ».
Mais se prendre en main au niveau local.
Oh non, Mathieu.
Bonjour Axel.
Mon pauvre Axelou.
Oh, j'ai même pas envie de dire bonjour. Là, c'est quand la vulgarité rejoint la l'ignominie.
Justement, tout est lié, Axel. Vous dénoncez une forme de vulgarité alors que ça s'appelle juste un enchaînement parfait, puisque se prendre en main au niveau local, comme vous dites, c'est précisément le thème de votre chronique, la revanche du local, des régions, à l'heure du coronavirus face à l'État jacobin. Et pam,
quelle transition. Effectivement, je vais vous parler, on a tous vu avec cette crise du coronavirus les insuffisances de l'État central
qui s'est emmêlé les pinceaux dans les masques, qui a bien du mal à faire redémarrer toutes les écoles de France et de Navarre et qui a eu du mal avec les hôpitaux. Donc oui, on se rend compte que l'État centralisateur à Paris, qui veut tout gérer, a bien du mal. C'est et fini. Si c'était l'acte de naissance des régions.
Face à vous, Axel, par la magie du téléphone, une femme qui, elle, n'est pas issue de la vieille noblesse française et qui, par conséquent, ne s'embarrassera pas comme vous avec des métaphores ou des périphrases. Si vous lui demandez comment elle compte l'emporter aujourd'hui, elle vous répondra de manière assez frontale.
Faut que je bande.
Et oui, elle est brute de décoffrage, comme son nom de serial killer moustachu. Bonjour, Eve Roger.
Bonjour, alors je vous préviens, il y a une énorme perceuse. J'ai l'impression qu'elle est dans mon salon. C'est oui. Horrible.
Mais vous, est-ce que ce sont les travaux de votre jacuzzi?
Pas encore, il n'est toujours pas arrivé, donc on en a commandé un deuxième.
Oui, parce que je signale à Arnaud Ducré quand même, puisqu'Arnaud vit dans le milieu du cinéma, il est un artiste bankable. Il faut quand même préciser, Arnaud, vous inquiétez pas, les journalistes vont bien, puisque Eve a une terrasse immense donc, dans Paris, et en plus, elle est en train de faire construire un jacuzzi. C'est pour vous dire quand même le niveau. On est quand même bien payé à Europe 1, on n'est pas à plein. Eve, vous êtes chef du service société d'Europe 1, et aujourd'hui, ça sent le sujet de commande de notre rédactrice
non,
en chef adorée,
c'est
Eva
Roth.
Je cite les astuces des célibataires confinés pour draguer malgré tout.
Ah ouais, non, c'est pas vrai. Ah bah, c'est même pas alors, vrai.
Eva, j'y si vous êtes en galère, vous me demandez directement, vous téléchargez Tinder, mais vous n'embêtez pas les gens avec des sujets. Bon, bref. Eve Roger, vous avez des combines pour Eva.
Oui, entre deux coups de perceuse, je vais essayer de clôturer ma trilogie sur l'amour au temps du confinement. Donc, après les couples confinés ensemble, après les couples confinés séparément, voilà les célibataires enfermés entre quatre murs. Et vous allez le voir, ce sont des vrais petits coquins.
Merci, Eve. Le programme est à peu près donné. Entre deux coups de perceuse, l'équipe sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe sauvage.
Le comédien Arnaud Ducré est donc avec nous en ligne cet après-midi. Alors Arnaud, un mot déjà du film très attendu de Michael Youn qui devait sortir ce printemps et pour lequel on devait vous recevoir, Divorce Club. C'est évidemment rageant pour vous, mais il faut voir le bon côté des choses. Vu le nombre de divorces qu'il va y avoir en sortie de confinement, le film sera complètement dans l'air du temps. Finalement, c'est un mal pour un bien.
Vous avez vraiment le sens de la transition. Ça, c'est enfin, de la transition, en tout cas, d'amener les sujets. Oui, non, c'est la vraie chose pour laquelle on s'en sort pas trop mal. C'est que j'ai, par exemple, ma copine Mélara, qui était sur Forte, et qui sortait, et qui vraiment, le film là, pour le coup, s'est arrêté. Et elle l'a sorti immédiatement en VOD. Alors que nous, on ne l'a pas encore sorti. Donc, effectivement, il a peut-être encore une chance d'avoir sa vie au cinéma. Quoi.
Ah bah, ça, c'est sûr, c'est un film qui a été primé à l'Alpe d'Huez. Ouais. Tout le monde en parle de ce film. Hein. Franchement, je vous le dis, on fait la promo pour beaucoup de films ici. Mais Divorce Club, c'est un film qui est très attendu. Donc, il va sortir évidemment au cinéma.
Ah ouais,
c'est sûr.
Je suis très fier de ce film. Moi, j'ai comme je disais avec mon agent, quand on a vu la première fois le Divorce Club, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas un film, c'est une bande démo. C'est-à-dire que il m'arrive tellement de choses dans ce film et je passe tellement par des couleurs de jeu et des étapes totalement incroyables avec ce personnage que oui, moi, je suis extrêmement fier de ce film. Et c'est vrai que même moi, on attendait beaucoup avec Michael Youn, on était en promo. Donc bon, voilà, on se dit qu'on garde le moral et que ça va ressortir. Quoi.
Il passe un petit moment avec nous cet après-midi et à l'instar de tous ceux qui passent un moment avec nous, il trouve notre émission géniale, comme Jean-Paul Rouve, je dis.
C'est complètement con. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est con.
Et aujourd'hui, c'est au tour d'Arnaud Ducré d'en prendre plein les yeux.
Europe 1.
Inégalité des territoires face au virus, appel à un déconfinement par zone, la France est-elle en train de payer face à l'épidémie son goût excessif pour la centralisation? Pour répondre à une question si intelligente, il nous faut un journaliste qui le soit tout autant. J'ai pensé à Axel de Tarlé.
Ah bah oui, alors du coup... oui.
Axel qui essaiera de nous prouver qu'il est l'homme de la situation juste après une nouveauté Europe 1. Living in Ghost Town, voici les Rolling Stones.
16h-18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
But I
Living in Ghost Town, c'était les Rolling Stones sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'info sans chichi, sans tabou et même par les temps qui courent, sans pantalon. Oui, en ce 42e jour de confinement, on peut vous le dire, chers auditeurs, on est comme vous, en télétravail. Et donc, c'est un des plaisirs du télétravail, en pyjama.
Ah
et
bon
encore, pour ceux d'entre nous qui ont le courage de s'habiller, car pour qui connaît un peu le sens de la litote d'Axel de Tarlé, je vous laisse deviner dans quel accoutrement il s'apprête à faire sa chronique.
Bah, je dois avouer, je suis pas en complet trois pièces.
Ah,
oui, c'est
mais
un
oui.
autre service trois pièces qui prend l'air en ce moment pour Axel. Et pourquoi pas à chacun son confinement. Mais Axel, quelle que soit votre tenue, la question que vous posez aujourd'hui est extrêmement importante. Face à la crise que nous vivons, contrastée hein, d'une région à l'autre, l'État est-il en train de toucher aux limites de la centralisation ?
Exactement, la crise contrastée. On voit bien que c'est très compliqué pour l'État qui a l'habitude de tout gérer depuis Paris, de tout piloter. Vous savez, c'est l'héritage de notre État centralisé jacobin, comme on dit. Hein. On voit avec les écoles. Enfin, c'est très compliqué pour Jean-Michel Blanquer de rouvrir en même temps toutes les écoles de France. Il y avait d'ailleurs la semaine dernière, ça m'a beaucoup amusé, il y avait Renaud Muselier, parce qu'on entend du coup beaucoup les élus locaux dire bah, « Attendez, oh, arrêtez de tout vouloir gérer depuis Paris, là !»
Ah, donc les élus locaux sont ont forcément l'accent
du sud. Non, mais parce que je parlais de Renaud Muselier qui dirige la région Grand Sud et qui est à Marseille.
Ah bah, l'imitation était de qualité.
Et voilà, et j'ai habité Toulon, moi, alors c'est pour ça l'accent du sud, je sais bien le prendre. Il disait, écoutez, c'est comme si nous, depuis Marseille, on avait la prétention de vouloir ouvrir tous les hôtels de France. Vous trouvez ça ridicule ? Eh bien, c'est ce que vous faites. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on réalise bien, et d'autant que l'État n'a pas été un formidable organisateur. On l'a vu avec les masques. Il est même allé, souvenez-vous, jusqu'à réquisitionner, enfin, il y a eu cette polémique, les masques qu'avait commandé
la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Axel, excusez-moi là-dessus. Est-ce que je peux vous interrompre là-dessus ? Je pourrais m'ériger en défenseur de l'État, ce qui m'arrive rarement. Je ne veux pas défendre les gens au pouvoir, mais juste la crise des masques. On a à un moment, il y a quelques années, on n'a pas recommandé de masques, donc c'est à ces gens-là qu'il faut s'en, à cette administration-là qu'il faut s'en prendre. Aujourd'hui, il n'y avait pas de masques, donc ils n'allaient pas les créer. Je ne comprends pas trop ce débat sur les masques, en fait.
Bah d'abord, vous voyez bien, il a été incapable de fournir des masques. Et donc, face à cela, les régions se disent prenons-nous en main. Et c'est ce qu'elles font, la région Grand Est. Je dis, écoutez, c'est moi qui vais m'occuper de mes tests. C'est moi qui vais m'occuper. Ils ont créé un fonds pour les entreprises. C'est moi qui vais m'occuper d'aider mes entreprises. Et la semaine dernière, Emmanuel Macron a reçu a été en visioconférence avec ses grands élus régionaux. Et on voit bien que, comment dire, il y avait un peu d'humilité. Il y a un peu d'humilité, je trouve, désormais, du gouvernement central, face à la diversité des terrains. Et autant, il y a 2 ans, il y avait un côté folklorique. Vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron avait fait le tour, on a l'impression que le président va en province, vous voyez. Il avait fait le tour des régions un petit peu comme Tintin. Là, on sent qu'il y a une volonté de dire, écoutez, je ne peux pas m'occuper de tout. Alors, on n'emploie pas le mot décentralisation, on emploie le mot de déconcentration. Je ne vois pas tellement la différence. mais, écoutez, tant mieux si cette crise permet de prendre conscience que les régions sont parfois plus à même de piloter, et parce qu'elles sont au plus près du terrain, que l'État central depuis Paris, qui produit des normes, de la bureaucratie et des règles. Tant mieux. D'ailleurs, je vous rappelle que François Hollande avait créé les régions en 2016, exactement sur le modèle des Länder allemands, de grandes régions, en se disant, finalement, les Länder allemands montrent, on l'a bien vu, hein, notamment en matière sanitaire, des grandes régions sont plus efficaces pour gérer au quotidien. Alors justement, puisqu'on est lundi et qu'il faut faire des petits jeux et des petits quiz, j'ai prévu de terminer cette chronique par un petit quiz amusant. Alors, par exemple, les régions sont nouvelles et elles ne sont pas toujours très bien identifiées.
Oh là là, mon Dieu.
Donc on va faire un petit test. Alors je vais commencer. C'est très facile pour vous, Eva. Les Alpes-Maritimes, c'est quelle région ?
Ah bah c'est Grand Sud, c'est ça ? Je ne sais même pas comment on l'appelle.
Grand Sud ?
Ouais,
c'est PACA, ça s'appelle toujours PACA.
Oui, ça s'appelle toujours PACA, oui, mais on dit Grand Sud aussi. Moi.
Alors, plus difficile, le Gers. C'est quelle région, le Gers ?
Auvergne...
Non, c'est en dessous. C'est
l'Occitanie.
L'Occitanie, c'est ce que j'allais dire.
Exactement. Qui est piloté depuis.
Alors là, depuis Toulouse. Hein.
Toulouse, oui.
Depuis Toulouse. Bravo. Bon, alors, mais je vois que je tape un peu haut avec mon quiz. J'aurais dû faire plus simple.
Oui, bon, bah, ça va, Axel. Là, vous n'aurez pas mon point.
La Corrèze, c'est quelle région ? Alors, c'est pas l'Occitanie, c'est l'autre.
C'est le centre.
Plus à l'ouest. Non, c'est une catastrophe. C'est la Nouvelle Aquitaine.
La Nouvelle Aquitaine.
Ok.
Bon, alors vous savez quoi, ce qui est bien, c'est qu'on est monté. Cette émission est enregistrée, donc on va couper cette séquence.
Oui.
Je suis très, parce que j'ai quand même fait Sciences Po, donc on va pas découvrir que je connais pas les régions. Donc tu me couperas tout ça. Mais non, c'est ce que j'ai dit avant qu'il faut couper. Là, c'est quoi, Gel? Mais ils comprennent rien en régie. Bon, merci, c'était Axel de Tarlé. C'était un sujet extrêmement intéressant, mais restez avec nous, Axel, car le prochain ne le sera pas moins, puisque Ève Roger nous révélera les combines des célibataires pour continuer de draguer malgré le confinement. Des combines qui ne devraient pas tomber dans l'oreille d'une sourde pour Eva Rock, très active dans ses recherches en ce moment. Et pour cause, on rappelle, Axel, que son dernier amant,
c'était Lionel Jospin en 1999.
Oui, et encore, souvenez-vous, il s'était retiré.
Oh non. Oh, elle est horrible, cette vanne. Cette vanne est horrible,
mais elle tombait à pic. C'est notre rituel. C'est notre rituel beauté intérieure du confinement. Chaque après-midi, on prend des nouvelles d'une personnalité pour se marrer et aussi parfois réfléchir avec lui, comme Alex Jaffray mercredi dernier. Le tout entre se marrer et réfléchir, c'est de trouver le bon dosage.
Ça oblige à réfléchir à une façon peut-être plus prioritaire et plus authentique et essentielle de communiquer, pas seulement sur le superficiel. Ouais. Putain, ça va être super chiant cette émission.
Oui, bon, réflexion faite, on va réfléchir, mais pas trop non plus, parce que ça fait mal à la tête. A tout de suite avec Arnaud Ducret.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. Sur Europe 1, l'équipée sauvage, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage spéciale confinement et de même qu'à 20h, la tradition veut qu'on applaudisse les personnels soignants, les urgentistes. À 16h, la tradition veut qu'on appelle une personnalité qui d'ailleurs en l'occurrence aujourd'hui aurait pu être urgentiste. Bon évidemment, son franc-parler aurait pu un peu décontenancer les patients quand il leur aurait expliqué l'effet du coronavirus.
La douleur va te sécher d'un coup, ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens douleur dans le thorax, c'est normal, c'est ta plèvre qui se décolle.
Arnaud Ducret est en ligne avec nous cet après-midi, heureusement que vous n'êtes pas devenu urgentiste. Arnaud, je vous connais un peu, je le disais, quelques années que je vous croise sur les plateaux. Vous êtes un mec hyper sympa, accessible, d'accord. Mais là, à force d'être la tête d'affiche de toutes les bonnes comédies françaises, vous allez finir par choper la grosse tête. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Je me dis, quand est-ce qu'Arnaud, il va basculer?
C'est ça, ouais. Quand est-ce qu'Arnaud va envoyer chier les gens? Vous savez, comme me disait Isabelle Nanty, être méchant sur un plateau de cinéma et mal parler aux gens, tu sais, Arnaud, c'est plus à la mode, elle me dit.
C'est exactement voilà, ça.
C'est Asbin.
Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes acteur et que vous dites bonjour à quelqu'un, souvent la personne à côté va dire, t'as vu, hein, il est bien, il dit bonjour. Enfin, c'est juste la base.
Oui. C'est la base, mais oui, c'est vrai. Alors, on parle de Mine de rien, qui est actuellement disponible en VOD, ce film qui était sorti fin février et qui a été un peu balayé malheureusement par le coronavirus. Je raconte en quelques mots l'histoire. On est dans une région minière, vous faites partie d'un groupe de chômeurs longue durée, et pour vous en sortir, vous avez décidé de construire un parc d'attractions artisanales sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Ça va pas être facile, on va vous mettre des bâtons dans les roues, mais grâce à l'ensemble de votre bande, vous allez mener à bien ce projet. C'est un film qui résonne avec l'actualité, un film sur la solidarité et le collectif finalement.
Mais oui, mais alors c'est un film que moi j'ai accepté il y a 6 ans. En fait, on l'avait déjà proposé. Mathias Mélécus, le réalisateur, me l'avait proposé. Ça devait jouer avec Philippe Robot, que j'adore, qui joue avec moi dans le film.
C'est génial.
Ouais, ouais. Il est formidable, j'adore ce mec. Et puis, bon, bah voilà, 6 ans plus tard, on le remonte. Et effectivement, alors que c'est le même sujet qu'il y a 6 ans, la résonance est un peu plus forte, et avec le confinement, et effectivement avec le groupe aussi des Gilets jaunes, où tout d'un coup, cette espèce de solidarité populaire qui veut s'en sortir, quoi.
Vous dites, en Angleterre, on voit beaucoup de films sur la solidarité et le collectif, comme Full Monty et les longs métrages de Ken Loach. Mm-hmm. En France, c'est rare, on n'est pas dans cette culture, et on l'a de moins en moins. C'est un joli conte social sur la solidarité, dans une période très égocentrique. Moi, j'ai bien aimé la comparaison avec Full Monty, c'est un peu cet esprit-là, hein, dans le film Mine de rien.
Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est vrai que... Mais même moi, quand je l'ai lu, c'est vrai que il y avait des choses. Par exemple, dans Full Monty, on a un moment où on voit les acteurs répéter leur pas de danse dans la banque postale aussi. Ils sont dans une banque, je crois. Ils font la queue pour récupérer des. Et c'est un peu nous quand on fait la queue aussi dans Full Monty pour. Dans Mine de Rien.
Pour retirer, pour retirer quelques sous.
Voilà, il y avait plein de petits détails comme ça. Alors évidemment, il y a le côté. Même dans les paysages, le temps, il fait pas, on n'est pas dans un truc où il fait hyper beau, il fait froid. Enfin, il y avait tout un truc qui me rappelait vraiment ça. Et puis, Effectivement, ce sont des comédies qui existent depuis longtemps. Ces fameuses comédies sociales en Angleterre, ça existe depuis un paquet de temps. Ils ont le sens du groupe. Il y en a un autre qui est une autre comédie que j'aime beaucoup, qui est très musicale. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Commitments.
Oui,
voilà. Mais c'est sur la musique, mais c'est pareil. C'est un groupe de mecs. Alors là, évidemment, groupe de musiciens qui vont tout faire pour s'en sortir avec chaque vie qui avance. Et ça me plaisait énormément, quoi.
Et dites-moi, vous avez deux enfants dans le film, mine de rien, qui sont absolument horribles. Hein, oui. Et je me disais que si vous les aviez en période de confinement, là, en ce moment, vous les auriez déjà jeté de chez vous, non?
Ah bah j'aurais acheté un congélateur, oui, ça c'est sûr. Ah bah là j'aurais acheté un gros congélo,
comme on dit dans le petit milieu de l'infanticide.
Exactement. Mais c'est une des raisons pour laquelle ça me plaisait de faire ce film aussi, c'est la paternité, c'est-à-dire que mon personnage est en quête de respect de ses enfants, des autres, de la société, de l'amour de ses enfants. Voilà, il a une chape de béton au-dessus de lui qui est assez costaud au début du film. Et chacun, petit à petit, va se révéler en n'étant plus spectateur de leur vie, mais en devenant acteur. Et avec ce parc d'attractions, entre autres. Et tout le monde se révèle et le sourire revient, quoi.
Et vous avez combien d'enfants dans la vraie vie en ce moment, chez vous?
Alors moi, je suis avec ma fiancée à des triplés.
D'accord.
Ah ouais. Ah bah là, j'ai pris le gros lot, là. Là, j'ai passé mon BAFA, donc c'est bon, tout va bien. Donc j'ai trois triplés, évidemment. Hein. Voilà, les triplés. Et puis, mon fils de 8 ans. Mais je dois vous avouer que mon fils de 8 ans fait plus de boucan que 3 gamins réunis.
Mais comment ça se passe justement le confinement, Arnaud? Vous vivez bien cette période? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous disent oui, c'est un temps pour l'introspection, tout ça? Vous, je sais pas, je vous imagine plutôt à avoir envie de sortir, aller boire une petite bière avec des amis, quoi.
Ah mais jamais de la vie d'introspection, mais je m'en contrefous. Jamais de la vie, jamais. Alors moi, écoutez-moi bien, le discours que je respecte chez les autres, il n'y a aucun problème. Mais alors le discours, non, mais je pense que c'est un moment où vous faites, si vous voulez, on va revenir sur nous-mêmes, sur les bases. Je m'en contrefous. Moi, je veux tourner des films, je veux voir mes copains, je veux faire des terrasses, je veux aller sur les Champs-Élysées, qu'il y a plein de monde. Je veux voir ma famille. Non, mais là, c'est une catastrophe. Moi je déteste ce moment, je vous le dis très honnêtement.
Oui, mais vous faites du pole dance chez vous en même temps.
Alors, je fais du pole dance. Non, ce qui est le plus. C'est pas que j'en fais, c'est que je regarde ma femme en faire. Et ça, c'est très agréable.
Donc, votre femme est une pro du pole dance, il faut le dire. Enfin, parce que c'est pas un hobby courant.
Non, elle a une école à Paris. Et c'est vrai que la particularité, c'est qu'il faut juste une barre pour pouvoir. C'est vraiment du cirque ce qu'elle fait. C'est assez incroyable. Moi, j'ai un grand respect pour ce qu'elle fait. À chaque fois, je suis assez épaté. Et donc, dans la maison, là, elle a mis une barre. Et tous les jours, elle fait de la pole dans la maison pendant que je prends mon café.
Oh, Arnaud Ducré, on a hâte de vous avoir en studio
vrai,
avec nous.
Oui.
Alors, quand Divorce Club sort, vous venez tout de suite
avec
en
grand
studio.
Plaisir.
Ah, oui. Dans l'équipe sauvage, on sera déconfinés. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi un petit peu.
Oui. Mathieu, pardonnez-moi, si je peux me permettre, une mention spéciale à vos réalisateurs et monteurs qui font un boulot de dingue à chaque fois. Je me dis, mais les mecs, vous aussi évidemment, mais vous êtes au taquet. Hein. C'est une super émission, j'aime beaucoup.
Merci infiniment.
Merci beaucoup Arnaud Ducré d'avoir été avec nous cet après-midi et à très bientôt.
À bientôt
en studio. Europe 1. S'arrête la vérité et où commence la caricature? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent lorsque j'évoque la vie hors antenne de nos journalistes. Ainsi, vous avez été nombreux la semaine dernière à penser que ma description du fastueux train de vie d'Ève Roger, pataugeant dans son jacuzzi sur la terrasse de son penthouse géant, était une pure invention. Moi-même, je le croyais. Seulement voilà, très vite, hors antenne, Ève est passée aux aveux.
Tu crois pas si bien dire sur le jacuzzi? On l'attend depuis le 23 mars, il a été commandé. Je sais pas pourquoi, il n'est pas livré.
Ah, feignasse de livreur! Ah oui, les temps sont durs. Ce qui n'empêchera pas la reine Roger de nous livrer un sujet palpitant sur ces célibataires qui continuent de draguer en plein confinement. Comment? La réponse juste après Philippe, Catherine et Angèle. Duo sur Europe 1.
On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern.
On a le même tempo.
Un jour la même mélodie.
joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
C'était Philippe, Catherine et Angèle sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même en ce moment, vous écoutez l'équipe est sauvage confinée. Deux heures d'une joyeuse empoignade entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre au service de votre culture G. Et notre prochaine concurrente, Ève Roger, nous propose un sujet de la plus haute importance. Comment, lorsqu'on est célibataire, continuer à draguer durant le confinement ? Effectivement, c'est délicat. Poussé par des amis, on a tous un jour tenté la drague au téléphone, avec plus ou moins de réussite.
Allô, je suis un copain de Dov. Il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros, gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends ?
Serge ? C'est toi mon fils ?
Maman ?
Eh oui, attention à la drague virtuelle. Heureusement, il existe d'autres techniques, n'est-ce pas, Ève Roger ?
Oui, absolument. Mais avant de vous donner les astuces, je vais vous faire un petit bilan parce qu'il y a 16 millions de célibataires en France.
Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà.
Et une partie des plus jeunes, c'est-à-dire les étudiants, sont rentrés chez papa-maman parce qu'ils n'ont pas envie de se confiner tout seuls. Donc ceux qui sont vraiment tout seuls, c'est les jeunes adultes en télétravail chez eux ou aussi les divorcés avec ou sans enfants. Alors comment font-ils ? Tous ceux à qui j'ai parlé, ils me racontent que le plus dur, ce n'était pas tellement l'absence de sexe. Ça, ils savent comment y remédier avec les sextoys, les sextos, le porno. Mais c'est vraiment le sentiment de se sentir encore plus seul qu'avant, parce que c'est encore plus dur de supporter le célibat. Il n'y a personne à côté pour vous divertir, vous savez, les collègues, les sorties. Donc ça vous remet face à vous-même. Et tous me disent, c'est pas forcément de l'amour qu'ils voudraient, mais une présence, quelqu'un avec qui se lever sur un canapé, regarder un film ou une série, se toucher, juste un petit contact physique. Vous savez, c'est le fameux plan dodo dont je vous ai déjà parlé.
Et on a déjà démenti l'existence de ce plan dodo qui débouche toujours sur un plan sexo. Ensuite, il n'y a qu'avec vous, Ève, que...
En tout cas, aujourd'hui, ils réclament un plan dodo. Peut-être qu'il pourrait se terminer autrement. Donc vous allez entendre Ariel, elle a 24 ans. Elle bosse en télétravail, confinée dans son petit appartement parisien. Et le célibat la mine déjà en temps normal. Alors là, c'est pire.
Ça me pèse beaucoup. J'ai l'impression que je perds du temps. Et que c'est maintenant que je suis jeune, belle et que je dois être avec quelqu'un. Et là, je me dis que ça aurait été encore mieux d'être en couple. J'aurais pu amortir ce confinement. J'aurais eu une activité sexuelle hyper épanouie. Ouais, c'est surtout au niveau de l'activité sexuelle, quoi. J'en ai pas beaucoup d'habitude. C'est maintenant qu'il faut faire et que je fais rien.
Voilà, écoutez, donnez-lui mon 06, tout simplement. On va peut-être trouver une solution. Oui. Que pourrait faire Ariel pour trouver quelqu'un, plus sérieusement, pendant le confinement ? Vous nous avez promis des bons plans, Ève.
Oui, alors, on va commencer. Il y a d'abord les œillades au supermarché. Paf, le type devant vous, il vous tape dans l'œil. Une amie m'a raconté avoir essayé d'entamer une conversation sur le contenu de son caddie. Bon, ça n'a pas abouti cette fois-ci.
Tu as pris du fromage de chèvre, mon coquinou.
C'est d'une bonne entrée en matière, hein, Mathieu. Oui. Ensuite, il y a ceux qui profitent de la balade d'une heure. Vous savez, on a le droit de se balader une heure par jour pour faire un peu de repérage. Là, il faut chercher le eye contact, est-ce qu'on m'a expliqué une autre de mes amies. Ou alors le pot dans la cour de l'immeuble, vous savez, organisé entre voisins, même si ce n'est pas très autorisé, mais ça existe aussi.
Ouais, ça, mes voisins connaissent bien, oui.
Donc là, elle m'a raconté qu'elle avait vu un type qui était pas mal. Alors je lui ai dit, pourquoi t'as pas enchaîné ? Elle m'a dit, j'attends le prochain pot. Donc le plus simple, ça reste quand même les sites de rencontres. Et c'est vraiment très intéressant ce qui se passe sur ce marché.
Bien.
Là, je parle à vous.
Prenez des notes,
Eva. Oui, j'écoute.
Alors, dans les tout premiers jours, on a constaté une baisse d'activité sur les sites ou les applis. Sur le mode, ça vaut pas le coup de se connecter connecter puisqu'on n'a pas le droit de se rencontrer.
On ne peut pas
après.
Concrétiser. Ouais,
mais certains célibataires ont commencé à utiliser les applis différemment, autrement, comme c'est plus la course pour le coup d'un soir, il s'agit pas de conclure en quelques minutes, et bien ils ont commencé à discuter plus longtemps, et par exemple sur le site Appen en Europe, on a remarqué que les temps de conversation ont augmenté de 10 à 30% par rapport à d'habitude. Donc c'est
le
plus
romantisme
longtemps.
Gagne les applis de rencontre.
Alors,
finalement.
Le romantisme, voilà, et c'est moins superficiel. Tous y racontent que l'idée c'est pas de séduire à tout prix, donc ils échangent de façon presque plus sincère, presque de façon plus authentique sur, en particulier évidemment, cette drôle d'expérience qu'est le confinement. Et les applis géolocalisées, vous savez, Tinder ou même Appen ou Grindr, eh ben ils ont élargi le rayon de la drague, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'était 250 mètres autour de vous, et eh ben maintenant c'est passé à 90 km parce que justement on a plus le temps et puis c'est pas le moment d'aller tout de suite. Ensuite, aller voir quelqu'un. Et puis, une experte en site de rencontre a même noté l'arrivée en France d'une nouvelle tendance venue des États-Unis. Moi, je ne connaissais pas. Ça s'appelle le pré-rendez-vous virtuel. Alors là-bas, on fait souvent le premier date en vidéo, en FaceTime, par exemple, parce que pour éviter de perdre de l'argent ou du temps, je ne sais pas si ça vous parle, avec des gens complètement fumeux. Vous savez, vous êtes obligé de payer un verre ou même le restaurant avec un type où vous vous dites, mais non, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, il y a un pré-rendez-vous virtuel où là, vous pouvez commencer à faire une sorte de casting. Et ben maintenant, les Français, aujourd'hui, expérimentent ce premier rendez-vous en vidéo grâce au confinement, avant une éventuelle rencontre après le confinement.
Je comprends la logique consumériste, mais je m'oppose fermement à un premier rendez-vous doit rester, même si on est passé par une appli de rencontre, un premier rendez-vous parce qu'il peut y avoir un truc magique. Et l'avoir en FaceTime, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom.
Ça quand même permet de faire le tri. Il y a 54% des Français qui sont d'accord pour ce premier rendez-vous.
Oui, mais c'est pas grave de payer. On peut payer une bière ou un coca, ça va pas nous ruiner quand même. Alors, écoutez-moi bien, parce que j'ai la réponse à la question que vous voulez que je vous pose. Vous me dites, mais personne ne triche et ne se rencontre en vrai. Alors moi, je sais qu'hélas, il y a des gens qui trichent.
Eh bien, bien sûr,
j'ai des amis.
C'est ça que je vais vous raconter.
Racontez-nous.
Alors, un ami m'a raconté son tour de passe-passe. Il dit, c'est assez facile. L'appli de rencontre trouve un ou une partenaire dans un rayon de moins d'un kilomètre. Tu prends ton petit sac de course, genre je vais faire mes courses, ton attestation de déplacement, et hop, le tour est joué.
Alors, course de première difficile. Nécessité.
Voilà, c'est les denrées indispensables. Impossible donc de savoir combien le font, c'est vrai, j'arrive pas à trouver des statistiques là-dessus, mais vous allez entendre Alexis, il a 25 ans, il est consultant et confiné dans son 24 mètres carrés à Paris, et ben au bout de 4 semaines, il a craqué, il n'en pouvait plus. Écoutez.
C'est vrai que j'ai vu quelqu'un que j'ai rencontré via un site de rencontre, il habitait pas très loin de chez moi, moins d'un kilomètre. Moi je suis arrivé, je me suis lavé les mains, et puis on a évité vraiment des contacts au niveau de la bouche, quoi, forcément. On s'interdisait pas forcément d'avoir des gestes l'un envers l'autre, mais on sentait qu'on n'était pas forcément à l'aise et que c'était plus vraiment naturel. On commence déjà à avoir des automatismes, déjà de plus faire la bise, de plus vraiment se toucher. Enfin, c'est assez particulier, en fait.
Et c'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire que pour lui, les histoires d'un soir ne sont plus jamais comme avant. Et c'est vrai qu'on commence à sentir cette différence, la vie avant et la vie après. Mais vous allez entendre, pour terminer, notre première témoin, Ariel. Elle, elle n'entend pas du tout de cette oreille-là. Elle compte bien se rattraper au moment du déconfinement. Écoutez.
Je pense qu'à la sortie du confinement, ça va être très très facile de draguer parce que tous les gens célibataires, ils ne seront pas très difficiles, quoi. Et moi, la première, en fait, j'ai jamais été très difficile en ce qui concerne les coups d'un soir. Et je pense que ouais, j'en aurai pas mal. J'espère en avoir à la sortie.
Qu'est-ce que vous en pensez,
Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris.
Moi, je ne pense rien. Allons-y.
Comment ça, vous ne pensez rien?
Non,
Eva,
je ne pense
va
rien.
S'y mettre. Non, mais Eva, vous avez une très mauvaise image des applis de rencontre qui sont vraiment démocratisées aujourd'hui. Vous pouvez y faire des belles rencontres.
Oui, chef.
Et surtout, vous pouvez y nouer des rapports romantiques. Justement, c'est le moment. Vous êtes en confinement. Vous n'avez rien d'autre à faire, Eva, à part préparer cette émission. Ça ne va
bien
pas
sûr.
Vous prendre non plus trop de temps.
Non, bien
et
sûr.
Donc, vous pouvez envoyer des petits messages et commencer à voir si la personne est drôle, a de l'esprit, etc. Et vous pourrez faire des belles rencontres.
Ah, j'adore votre humour souvent. Allez-y,
c'est mon conseil.
Là.
Merci, Eve Roger. Et n'oublions pas, si on ne trouve pas chaussure à son pied en confinement, il nous reste toujours les sextoys. Vous-même, Eve, je me suis laissé dire que...
Il n'est que gonflable, et c'est un petit gonflable, voilà.
Oui, gonflable ou pas, c'est hyper pratique.
Europe 1.
Justement, c'était une séquence de l'émission Pas piquer des verres, où l'invité pouvait prononcer des phrases aussi invraisemblables que...
Mais qu'est-ce que ça peut être, un sextoy caché à Riva?
Replongez avec nous dans les plus grands moments du quiz de Culture G qui opposait jadis Eva à l'invité. C'est tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h-18h. Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Qui veut gagner des millions sans les millions ? Question pour un champion sans les champions. Voilà comment on pourrait présenter ce qu'était le quiz. Cette séquence qui opposait chaque jour l'invité à Eva sur un thème donné. Eva perdait souvent et les rares fois où elle l'emportait, c'est que l'invité avait surestimé la difficulté des questions, comme Daniel Pénac. Daniel Pénac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu 3 premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux ?
Parce que, voyons, j'en ai connu 2, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen. Et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, oui, c'est vrai.
C'est vrai ?
Oui.
C'est faux. Vous vous rendez compte, Eva, vous aviez battu Daniel Pénac sur un quiz. Et si pour fêter ça, on se réécoutait justement d'autres moments, moins glorieux peut-être pour vous du quiz. Allons-y. Sandrine Bonner, en hommage à votre carrière cinématographique qui donne le tournis, on va faire un quiz 7e art. Vous êtes opposée à Eva Rock. Principe simple, je vous donne des phrases, vous me dites si elles sont issues ou non d'un film. Je vous rassure, vous n'avez pas me donné le titre du film. Sandrine, on commence avec vous. Est-ce qu'on accuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y a un terrier de lapin et que le poteau les écrase, mais est-ce la faute du poteau si c'est juste un trou fait pour lui ? Film ou pas film ?
Oh mon Dieu.
Pas film, moi, je dirais.
Film ? Vous êtes sûr ?
Non, mais je vais dire pas film.
Vous dites pas film ? Faites-moi plus confiance quand je vous fais des clins d'œil. C'était un film, on l'écoute.
Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y a un terrier de lapin que le poteau les écrase, mais est-ce la faute du poteau s'il s'ajuste à un trou qui était fait pour lui ?
Vous l'avez reconnu ou pas ?
C'est du Audiard ou pas ? Non.
Alors déjà, c'est un de mes acteurs préférés.
Ah, Jean-Pierre Marielle ?
Qui nous a quittés trop tôt. Il nous a quittés avant Jean-Pierre Marielle, avant Jean Rochefort. Il y avait un autre dans le... Philippe Noiret, bonne réponse. Axel de Tarlet.
Il l'a dit il y a 5 minutes.
Oui,
c'est vrai,
je suis un expert en cinéma.
Et c'est dans quel film ?
Ah, c'est dans Coup de Torchon.
Ah, Coup de Torchon, d'accord. Ah oui.
Eva Rock.
Oui.
Hier, dans mon bain, je me suis caressé. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivé en haut. Avoir un orgasme, c'est médical, alors je dis arrivé en haut. Et vous, comment vous dites ? Film ou pas film ?
Non, c'est pas film, ça c'est vous en train de parler de vous dans votre bain. Parce que vous avez dit dans une interview à Télérama que vous preniez toujours des bains. Donc j'imagine que c'est vous.
Parenthèse, ma copine elle m'a dit qu'est-ce que c'est cette connerie ? Pourquoi tu prends pas des bains en écoutant Christophe Ondelat ? Oui, j'ai un peu raconté n'importe quoi dans cette interview. Alors film ou pas film,
Eva ? Non, pas film.
Pas film, vous êtes sûr de vous ?
Ah bah oui, non, oui, mais bon, pas film,
d'accord,
c'est si film.
Bien, film. Eh oui, film. Ah, oui. Regardez même film, et ça prouve que... Bref, écoutez.
Hier soir dans mon bain, je me suis caressée. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivée en haut. Avoir un orgasme, ça fait médical. Alors je dis arrivée en haut. Et vous, comment vous dites ?
Comme c'était quoi, vous connaissez mal la filmographie de Sandrine Bonner, Eva Rock.
Ah bah carrément, c'est
et
dans
oui,
quoi ?
Et oui, c'était Sandrine dans Confidence trop intime. Vous parlez à Fabrice Luchini. Le film était réalisé par Patrice Lecomte. Belle rencontre, Fabrice Luchini ?
Très belle rencontre. Très joli ce film de cul qu'on a fait ensemble. Je fais pas beaucoup de comédies. En revanche, les pornos, j'en ai fait quelques-uns.
Là, Fabrice Luchini qui disait, je crois, en interview, qu'il vous prenait pour quelqu'un d'assez froid. Il avait un peu peur de vous rencontrer, d'un télo chiant, limite. Et puis, il vous a rencontré, il vous a dit, oh, en fait, c'est super.
Tout à fait. Et moi, je le trouvais... je me disais, il va me prendre la tête, il est tellement bavard, tellement... et c'est rigolo parce que dès le premier jour de tournage, d'ailleurs c'est lui qui m'a dit « Oh, t'es vachement sympa » et tout ça, finalement.
Tout était dans le finalement.
Il m'a dit « qu'est-ce que tu penses de moi ?» J'ai dit « Bah écoute, je t'aime bien aussi, finalement.
»
Et on s'est beaucoup, beaucoup apprécié. Je l'aime beaucoup, Fabrice.
Eva Rock.
Oui.
Tu me feras pas visiter le château de Versailles, après tout. C'est comme si on visitait chez des gens qu'on connaît pas. Film ou pas film ?
Ah non, c'est un film, ça.
C'est votre réponse ?
Oui.
Tant mieux, c'était pas ça.
Ah non !
Écoutons.
Tu ne me feras pas visiter le château de Versailles. Après tout, c'est comme si on visitait chez des gens qu'on ne connaît pas.
Rien qu'avec... Elle a le jingle, vous devez reconnaître.
Mais elle a dit film.
J'ai dit film.
C'est pas un film, c'est Palace. C'est un film Palace.
Mais il triche avec.
Je ne triche pas.
Ah,
mais
là, ce sont des...
Toutes les phrases sont vraies. C'est pas des phrases que j'ai inventées. Sinon, ça n'a pas de sens. Ah oui, oui, elles sont dans un film ou pas un film. Si c'est pas un extrait d'une série, si c'est de Maggie, par exemple, mais c'est pas un extrait de film.
C'était mal expliqué.
Oui, c'était mal expliqué. Merci.
Et bien, vous déposerez une réclamation au CSA. Sandrine Bonner.
Il est chiant, M.
Je l'ai déjà dit. Sandrine Bonner. Je prie à mort le dieu des fesses qu'il me laisse pas sans gonzesse. Film ou pas film ? C'est votre réponse ? Non ? Bonne réponse.
C'est une chanson.
C'est une chanson, ouais.
Comme quoi, Mathieu Charry,
comment
vous faites fonctionner votre cerveau ?
Ouais.
Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse.
Je ne sais pas ce que c'est Tristan qui chantait Bonne Humeur ce matin, mais ça sent bon les années 80.
Ah, oui, 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 ouais.
Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça.
C'était bien ça, j'adorais.
Ça vous date encore mieux que le carbone 14, ça. À la surprise générale, Sandrine Bonner remporte un quiz cinéma contre Eva Roche. C'est décidément possible sur Europe 1.
Europe 1.
Papa, je peux aller jouer au foot avec Léo dans la cour, promis, on reste à un mètre. Papa, je peux mettre du Nutella dans le biberon de Manon pour voir ce que ça fait. Papa, tu peux enlever la pub dans mon jus d'orange. Papa, pourquoi j'ai pas la Switch?
Tu vas la fermer ta grande gueule.
Et la phrase qui vous vient le plus souvent à l'esprit depuis 42 jours confinés avec vos gosses, comment faire en sorte qu'ils vous fichent enfin la paix? Eva Rock vous propose une technique à base d'écran, juste après Electric Light Orchestra sur Europe. Train to London, c'était Electric Light Orchestra sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
42 jours que vous essayez bon gré mal gré de télétravailler. Gloire à vous, parents modèles, qui vous coltinez désormais les mioches toute la journée. Soyez fiers de vous. Même si vous n'êtes pas parfait, notamment quand vous essayez de superviser leurs cours d'anglais.
Robin Thicke. Robin Thicke ? Non, c'est Thicke. Thicke. Ouais. Amel Bent. Bah, Thicke. Thicke. Oh. Comment on dit en fait, en vrai ?
Tu sais pas ?
Amel Bent. Si c'est Robin Thicke. Thicke. Je ne sais plus.
Eh ben c'est pas grave, le tout
vous
c'est de faire réviser ces petites canailles.
Voilà.
Mais comment les motiver? How to motivate them, Eva? Eh bien, en leur proposant un deal. Une heure de taf, une heure de télé. C'est la méthode rock au programme aujourd'hui.
Allez, on va continuer cette septième semaine de confinement avec de nouveaux contenus pour les plus jeunes adeptes des écrans. Et je vous propose une séance de sport, Mathieu. C'est sur Gulli, c'est un dessin animé formidable qui attend les plus jeunes. Dans Bande de sportifs, c'est le nom du programme. Théo est un apprenti journaliste. Il est chargé de nous faire découvrir des sports. Le surf, par exemple, et c'est sa copine Mao qui lui explique tout.
Au surf, on sollicite surtout les bras parce qu'il faut beaucoup ramer. Les jambes pour être bien stables et le haut du corps pour enclencher des figures.
Toi, belle planche, toi qui permets au surfeur.
Pousse, mon pote. D'abord la paraffine sur sa planche, ça évite de glisser. Ensuite le liche pour ne pas perdre la planche si on tombe. Toujours faire un peu d'échauffement et on est prêt.
Quelle chorégraphie!
Alors les enfants vont assimiler le surf, alors sur un plan physiologique, hein, vous venez de l'entendre, mais aussi ils vont pouvoir apprendre le nom des figures par exemple. C'est vraiment du savoir encyclopédique en dessin animé pour des pastilles de 5 minutes environ. Au programme également, le skateboard, le hockey sur glace, le BMX. Et alors j'ai découvert à cette occasion que les enfants ils mettent aussi des commentaires sous les vidéos. Et Mathias par exemple il écrit « Ouais, pas terrible ». Il y a un autre qui s'énerve et qui dit « Mais pourquoi il n'y a pas motocross ?» Et puis il y a Leloup qui lui est enthousiaste et il dit « Terrible cette série, à quand le kung-fu ou l'escrime ?» médiéval. Je veux savoir qui est ce Leloup. Voilà, je ne sais pas qui est cet enfant qui peut dire des choses pareilles. Bande de sportifs, en tout cas, c'est sur le site de Gulli, gulli.fr. Voilà, c'est très sympa. Il y a plusieurs pastilles de 5 minutes.
C'est très sympa, un peu comme vous. Merci beaucoup, Eva, pour ces conseils.
Europe 1.
La première manche de l'équipe sauvage touche à sa fin, les amis. Mais deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour vont nous rejoindre. On vous expliquera comment les nouvelles technologies vont nous faciliter le déconfinement et pourquoi les millionnaires allemands en ont marre de ne pas pouvoir prendre l'avion. Alors restez bien à l'écoute de l'émission la plus feel-good de l'après-midi. Deux heures à l'avant-garde de l'humour et à la pointe de l'actu, puisque nous aurons en exclusivité pour Europe 1 la réaction du professeur Didier Raoult à l'info selon laquelle la nicotine serait un rempart contre le coronavirus.
Quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul. Hein. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire avec rien dans les mains, rien dans la bouche comme ça.
Et oui, le monde bouge. Et heureusement, on a le sens du rythme sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.